7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, comment réveiller la créativité des enfants et susciter leur imaginaire ?
Mon cheval de bataille, c'est que tous les enfants ont un talent fabuleux. Et nous le gaspillons sans vergogne. J'aimerais donc vous parler d'éducation, mais aussi de créativité. Mon combat est que la créativité aujourd'hui est aussi importante dans l'éducation que la littérature. Et nous devrions les traiter de manière égale.
La créativité aussi importante que n'importe quelle autre discipline à l'école, lieu d'éveil s'il en est, l'école est-elle pourtant en train de tuer toute créativité? Comme le suggère l'auteur britannique Ken Robinson, à l'école primaire, au collège, rares sont les disciplines qui font appel à l'imaginaire. Musique, arts plastiques sont optionnels des lycées en France. Alors jeux de rôle, ateliers radio, écriture de scénarios et autres expériences, la créativité peut-elle s'enseigner à l'école, mais aussi à la maison? Quelles sont les clés pour la stimuler alors qu'elle s'impose plus tard en entreprise comme une compétence incontournable? Et puis, pour les parents inquiets des résultats scolaires de leurs enfants, en quoi cette créativité peut améliorer les performances à l'école? Avec nous, pour en parler, nous avons la chance d'avoir 5 invités aujourd'hui. Isabella Dell'Aquila, bonjour.
Bonjour.
Vous avez enseigné près de 18 ans, vous vous êtes spécialisée dans le développement de la créativité des enfants et vous co-publiez le livre « Vos enfants sont créatifs » avec Hubert Jaoui qui est à vos côtés, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et consultant sur l'innovation et l'éducation. Bonjour André Stern.
Bonjour.
L'enthousiasme vous passionne, il faut à tout prix pour vous le cultiver dès l'enfance, ne jamais cesser de s'émerveiller. Vous vous définissez, je cite, comme un grand enfant de 47 ans et vous publiez le livre « Tous enthousiastes ». Retrouvez votre énergie d'enfant. Mathieu Cassotti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes et chercheur au laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Et à vos côtés, Alexandre Planck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur et producteur de formats radio de fiction sur France Culture. Et vous avez, avec des lycéens de Douarnenez en Bretagne, imaginé que leur ville soit exclue de la France, punie pour une trop forte abstention aux dernières élections présidentielles. Pour un documentaire radio baptisé « Demain s'ouvre au pied de biche », ces élèves ont sillonné la ville, rencontré les habitants avec une question. Qu'est-ce qu'on pourrait construire ici, ensemble, maintenant?
Pendant des jours, on a continué nos balades pour préparer cette émission.
On est allé voir tout le monde, tous ceux susceptibles d'apporter leur pierre à l'édifice.
Le lundi, on allait chez les défenseurs de la langue bretonne pour essayer de déchiffrer avec eux ce qu'on pourrait faire ensemble.
Le mardi, on avait rendez-vous aux ateliers de l'enfer sur le port, parce qu'il faudra bien qu'on apprenne un jour à les fabriquer nous-mêmes les bateaux.
C'est un bateau qui peut aller et en mer et sur les fleuves, donc... Alors justement, c'est pour ça que le gouvernail et la dérive lui permettent d'avoir de la stabilité, sinon il roulerait comme un tonneau dans l'eau.
Le mercredi, on embrouillait le proviseur du lycée.
Une hiérarchie en fait qui serait complètement renversée.
Pour faire de Jean-Marc un lycée autogéré.
C'était pas gagné.
Et on reviendra sur ce docu-fiction un peu plus tard dans l'émission. Alors on dit d'elle qu'elle est la grande absente de l'école. Est-ce qu'en France, Hubert Jaoui, vous diriez qu'on bride l'esprit créatif des élèves à l'école?
Pas seulement dans les écoles. Notre société est par définition anti-créative. Ce n'est pas le cas de toutes les sociétés. Hein. Nous avons des normes, nous avons un modèle qui a montré son efficacité il y a pas mal d'années. Et on veut mettre tout le monde dans ce modèle. On veut former les gens, ce qui est une monstruosité. Former des gens, ça veut dire qu'on leur donne une forme. Et quand leur forme est faite, et ils doivent la subir jusqu'à leur dernier jour. C'est un crime contre l'humanité.
Isabella Dell'Aquila, sur ce débat, la créativité qu'on détruit à l'école.
J'ai travaillé à l'école et ce que j'ai remarqué parmi mes collègues, ceux qui passaient l'enthousiasme surtout, qui est très important, donc la motivation, et y passer des concepts à travers des jeux, ça marchait énormément bien. Au contraire, il y avait d'autres profs qui étaient un petit peu, entre guillemets, classiques, qui pensaient qu'il fallait seulement passer la matière, les concepts, et ne pas tenir compte de la personnalité de leurs élèves, et ça marchait pas. Donc je dis que la créativité est très importante, surtout pour développer le potentiel créatif qui est dans chacun de nous.
Alors sur ce sujet, un voisin nous a laissé un message sur WhatsApp.
Bonjour RFI, Ouzen Uchu depuis Goma en RDC. L'imaginaire chez les enfants en Afrique, on a du mal toujours à les cerner, mais moi je pense que le problème ici sur le continent africain est que le système des épreuves ne permet pas forcément aux enfants d'être beaucoup plus créatifs, parce qu'il y a surtout des questions de mémoire, pas des questions qui pourraient susciter la réflexion de la part des enfants. Donc c'est un problème qui est majeur. Pourtant, chaque enfant a sa part de créativité, a sa part de l'imagination. Et si on arrivait seulement à réformer le système éducatif, moi je pense que le problème peut être résolu. Les enseignants doivent être formés, doivent être sensibilisés sur ce fait-là. Parce qu'en Europe, on sait bien que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont créatifs, mais c'est grâce au système, c'est grâce à la manière dont ils ont évolué. Donc il faut quand même une réforme assez profonde du système éducatif. C'est que moi je pense.
Alors quand on parle de créativité, de quoi parle-t-on exactement? Je vous propose d'entendre la définition qu'en fait Ken Robinson, qui il y a 12 ans a animé une conférence TEDx, vous savez ces conférences en ligne, sur le sujet et qui continue d'en parler.
C'est étonnant de devoir expliquer ce qu'est la créativité, en sachant que c'est au cœur même de l'humanité. Je la définis comme la capacité d'avoir des idées originales qui apportent de la valeur. Et ce n'est pas limité à des personnes particulières. Nous avons tous ces capacités. Nous ne les développons pas tous, mais nous les avons. Ça n'est pas limité à certaines disciplines, comme la musique ou le théâtre. Mais ça peut aussi être la technologie, le business, la cuisine, l'architecture ou le design. Tout ce qui implique l'intelligence humaine. Et on peut aider les gens à s'améliorer. On peut les aider à être plus créatifs. C'est mon postulat. La créativité, c'est l'application pratique de l'imagination. C'est faire travailler son imagination. Et c'est un processus très pratique. Un des meilleurs exemples auxquels je pense, c'est que d'abord, la créativité est très collaborative. C'est matériel dans sa façon de fonctionner. Et en même temps, c'est souvent encadré par des contraintes. Ce n'est pas que la liberté. C'est faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez.
Que vous inspire cette définition, André Stern?
Ça me rappelle l'état natif de l'enfance. Ça me rappelle effectivement le fait que chaque enfant est venu avec cet état qui est comme un lac intérieur et qu'on porte tous en nous. Et qu'en réalité, il ne s'agit pas tellement d'éveiller que de ne pas recouvrir de tous les nuages et de tous les rideaux qu'on s'emploie à mettre par-dessus. Et je ne pense pas qu'on puisse penser que c'est l'école qui le fait. C'est l'école, il n'y a pas de raison qu'elle soit différente du reste de notre société. Et donc, c'est nous tous qui sommes responsables de ça. C'est nos parents. Paradigmes et nos attitudes. Mais c'est ça qui est la bonne nouvelle, c'est que c'est un état natif de chacun d'entre nous. Et c'est là où vivent nos enfants. Nos enfants sont des frontaliers qui vivent à cheval sur le monde imaginaire et sur le monde réel et qui font toujours communiquer ces deux mondes en allant chercher un caillou dans le monde concret pour en faire quelque chose dans le monde imaginaire. Et du coup, c'est ça qu'on appelle la créativité. C'est natif. Il faudrait cependant que nous, en tant que société, et pas en tant qu'enseignants, qu'en tant que parents, jamais en tant qu'individu, mais qu'on fasse une réflexion ensemble, qu'on voit à respecter les rythmes et les rituels de l'enfance. C'est pas de moi, c'est justement Ken Robinson qui, dans la préface qu'il a faite pour l'un de mes livres, a décrit comme ça les rythmes et les rituels de l'enfance. Et si on se met à les respecter les uns et les autres, ce qui demande juste un changement d'attitude, ben il s'avère que tout ça va de soi et qu'on n'aura plus à réveiller des choses qu'on n'aura pas recouvertes de tous ces nuages.
Quel rituel, par exemple ?
Disons que les rythmes et les rituels de l'enfant étant propres à chaque enfant, c'est difficile à définir. Mais si à chaque fois qu'un enfant joue, on vient l'interrompre parce qu'on pense qu'il y a des choses plus importantes à faire, par exemple, si on a réussi le miracle neurobiologique de séparer jouer et apprendre, et qu'on pense que le jeu est sans importance et l'apprentissage très important, et qu'on sépare les deux, et qu'on interrompt un enfant qui est dans son rituel du jeu pour lui demander d'apprendre, c'est quelque chose qui ne va pas comprendre, ça va lui amener le doute.
Alors qu'il apprend en jouant.
Alors qu'apprendre, en réalité, n'est pas une chose qui existe. Hein. Apprendre, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qui nous arrive quand on est dans un état d'émotion. Le jeu est un état d'émotion. Le jeu porté par l'enthousiasme. Et c'est pour ça que moi, mon cheval de bataille, à côté de tout ça, c'est l'enthousiasme.
Et justement, dans vos enquêtes sur l'enthousiasme, vous avez été marqué par un neurobiologiste allemand, Gerhard Hüther, pour qui le cerveau se développe grâce à cet enthousiasme.
Alors pas que pour lui, hein, c'est des découvertes. C'est parce que voilà, pendant des décennies, pendant des siècles, on nous a fait croire beaucoup de choses, notamment que notre cerveau était programmé par nos gènes et que notre intelligence était définie par notre programme génétique. Et donc on venait au monde en tant que personne bête ou en tant que personne intelligente. On n'avait pas découvert l'épigénétique ce qui fait qu'on pensait que ce qui était génétique était gravé dans le marbre. Maintenant, on sait que c'est pas le cas et que tout notre environnement et nos rencontres et notre vie fait changer notre génétique. Mais du coup, on s'est surtout rendu compte que dans le cerveau des jeunes de nos jours, la zone qui est responsable des mouvements du pouce est beaucoup plus développée qu'elle ne l'était dans le cerveau des jeunes il y a 50 ans. Et bien sûr, ça a ramené à l'usage intensif des pouces, surtout dans l'écriture des SMS. Et du coup, on a pensé, donc le cerveau n'étant pas seulement programmé génétiquement, il y a donc un développement qui s'effectue comme pour le travail du muscle. Donc on va faire des programmes de musculation cérébrale qu'on a développés, qui n'ont absolument pas marché, au grand désespoir de ceux qui les avaient développés en disant, puisque ça marche si bien pour l'écriture des SMS, pourquoi ça marche pas pour l'apprentissage des mathématiques ? C'est parce qu'il manquait une composante qui est récente comme découverte, c'est que notre cerveau se développe effectivement quand nous l'utilisons, si nous l'utilisons avec enthousiasme. Et cet enthousiasme, c'est le bain dans lequel baigne le cerveau de nos enfants. C'est un gratuiteur dit, au bout des longs filaments sont sécrétés des neurotransmetteurs neuroplastiques, vous voyez, je l'ai bien cité, qui agissent sur le cerveau comme de l'engrais. Et ben voilà, on est venu au monde tous équipés d'une portion d'engrais cérébral portable qu'il suffirait de ne pas recouvrir de toutes sortes de choses.
Mathieu Cassotti, vous validez ?
Alors, je valide partiellement, mais je suis complètement d'accord avec le fait que oui, le cerveau n'est pas uniquement un construit génétique et que l'environnement a une part extrêmement importante, non seulement dans ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau, à la fois d'un point de vue anatomique, mais aussi fonctionnel, va se modifier en fonction des interactions avec l'environnement, mais effectivement, on redécouvre l'épigénèse. Alors, c'est un vieux concept, l'épigénèse, c'est-à-dire comment l'environnement va aussi contraindre l'expression des gènes. C'est assez vieux, hein, parce que Lamarck, au 19e siècle, on parlait déjà et on l'a beaucoup moqué et critiqué, alors qu'en réalité on est en train de le redécouvrir. Et donc je reprends souvent en fait avec mes étudiants une phrase d'Axel Kahn, c'est le cerveau c'est 100% génétique et 100% environnement. C'est-à-dire que si effectivement vous n'avez pas les gènes qui permettent de coder tel ou tel neurotransmetteur, ça va être compliqué pour vous. Mais de la même manière, si vous n'avez pas l'environnement, le cerveau ne peut pas se développer normalement.
Alors pour réveiller la créativité, on l'a entendu, il faut des contraintes. Et c'est de ce postulat que vous êtes parti, Alexandre Planck. Vous avez travaillé avec une classe, un mois, à Douarnenez, dans un lycée, avec un thème imposé qui était de travailler en amont sur les présidentielles de mai 2017 en France. Oui. Comment ça s'est passé ?
On a décidé de travailler sur les élections. On voulait travailler sur l'abstentionnisme parce que c'était des adolescents qui n'avaient encore jamais voté. Donc on s'est dit, eux sont peut-être en position pour interroger des gens qui ont décidé, donc des gens de plus de 18 ans qui ont décidé de ne pas voter. Et dans les discussions qu'on a eues, moi j'ai fait très attention à leur laisser une part de créativité, mais surtout, moi je voulais qu'ils racontent un point de vue qui n'appartenait qu'à eux sur le monde. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans une idée d'adulte sur des jeunes qui parleraient des élections, mais vraiment partir de ce que eux pensaient pouvoir faire des élections. Donc on a eu beaucoup de discussions sur les présidentielles, qu'est-ce que ça portait, qu'est-ce que ça racontait. Et il faut savoir que Douarnenez, c'est quand même une ville extrêmement militante. Il y a eu le mouvement des peines sardines, qui par exemple est un mouvement de femmes qui se sont mises en grève, qui travaillaient dans des usines qui emballaient le poisson en fait. Et ça a fait des mouvements dans les années 20 absolument énormes dont toute la France a parlé. Donc on travaillait quand même avec cet imaginaire d'une ville ancré politiquement dans quelque chose de revendicatif. Et c'est les élèves qui ont proposé cette idée de dire qu'est-ce qui se passerait si on ne votait pas, si la ville ne votait pas. Donc on est parti de là. En fait, la première contrainte, c'est eux presque qui se la sont imposés.
Alors on va écouter un extrait de ce documentaire.
Oufipo. La web radio qui met le Finistère en conserve.
En mai dernier, c'était les élections. Et ici, à Douarnenez, la campagne n'a pas eu l'air d'intéresser grand monde. Ça n'a, comme qui dirait, pas pris.
Pas trop cette année.
D'accord.
Moi, je trouve qu'ils parlent beaucoup des petits problèmes qu'il y a entre les candidats, puisque de ce qu'ils vont vraiment faire pour la France, quoi.
Je me suis pas encore penché réellement, du coup, je sais pas quoi.
Il y a trop de politiciens corrompus, c'est vraiment du n'importe quoi, on sait même plus où se placer.
Peut-être parce que Douarn, c'est déjà le bout du monde. Et une vision un peu différente de ce que devrait être la société.
Bref, ce qui devait arriver arriva en 2017. Personne n'est allé voter, ni au premier, ni au second tour.
Évidemment qu'on n'a pas voté. Ça fait des années qu'on vote, et fait de pire en pire.
Alors on en avait marre, hein. On comprenait plus rien de ce qui se passait dans ce pays.
Bah on voulait les trouver nous-mêmes, les solutions, et puis voilà.
Après les élections ou les non-élections,
tout s'est enchaîné très vite.
L'État français qui donc petit à petit retire ses billes de la ville de Douarnenez.
Que faire d'une ville qui ne remplit en rien son devoir vis-à-vis de l'État ?
Après 3 semaines de flottement, le verdict est tombé.
C'est inédit en France, Douarnenez dans le Finistère sera donc la première ville autogérée du pays. Elle sera entièrement coupée administrativement et financièrement du reste de la nation.
La commune de Douarnenez se voit désormais privée de tout financement public.
On a essayé de nous affamer.
De nous mettre au banc.
De nous exclure du grand roman national.
On nous a traités de tous les noms, et on n'avait plus un sou. Mais d'une manière ou d'une autre, on a eu ce qu'on voulait. La liberté totale d'inventer autre chose, de rêver un peu, de chercher des alternatives.
Et finalement, en ville, on en est venu à considérer tout cela comme un acte de sécession.
On a considéré avoir pris notre indépendance.
Et c'est là que les problèmes ont commencé.
Demain, s'ouvre au pied de biche.
Alors, parmi les propositions de ces élèves devenus reporters de fiction donc pour réinventer leur ville, il y avait donc moins de voitures en ville, par exemple, plus de déplacements en bateau. En tout cas, on va apprendre à construire des bateaux. Quoi d'autre ?
Il y en a eu des dizaines, hein, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, les transports, c'était une première question, mais il y a qu'est-ce qu'on fait quand on n'appartient plus à un État ? Qu'est-ce que l'école devient ? L'école devient autogérée, le lycée devient autogéré. Qu'est-ce qu'on fait avec les hôpitaux ? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de symboles nationaux, par exemple ? Alors là, le Kouign-Amann devient un symbole national, devient le plat national. Qu'est-ce qu'on fait quand il faut réinventer des structures communes, réinventer des choses qui peuvent faire qu'une société, même plus petite, tient ensemble ? Quand les MJC n'existent plus, comment est-ce que les gens vont se rencontrer ? Donc il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de propositions. Moi, j'ai entièrement confiance dans la créativité des jeunes gens, hein. Tout le travail avec eux, j'ai l'impression que c'était de les confronter à un objet réel. C'est-à-dire que si, à un moment, une pensée politique se développe, il faut qu'elle soit juste. Donc c'était presque plus un processus intellectuel que nous, on mettait en place. Si on dit, OK, il faut réinventer une manière de soigner les gens dans une petite ville. On a fait des recherches. On s'est dit, comment est-ce que ça se fait à droite, à gauche ? Comment est-ce que...
Interviewer des habitants, des professionnels.
Ils ont lu plein de trucs sur Internet, comment d'autres pays font ça, comment les caracoles au Mexique fonctionnent quand on décide de ne pas travailler avec le gouvernement ou de ne pas utiliser les hôpitaux du gouvernement. Et donc, à partir de toutes ces données, ils ont inventé une histoire.
7 milliards de voisins.
Ouais, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
Réveiller la créativité et l'esprit pratique qui réside dans chacun d'entre nous, c'est possible et cela se passe à Gennevilliers, dans l'école primaire Les Grésillons, en région parisienne. 21 élèves de CE2 et de CM1 ont gravi une montagne et travaillé à cartographier un lac en altitude, et ce grâce à leur instituteur Philippe Nicolas, qui a tiré d'ailleurs de son expérience un livre, Enseignant Trappeur, pourquoi pas. Il a emmené ses élèves 12 jours en classe transplantée, ce qu'on appelait autrefois classe verte, dans les Hautes-Alpes pour explorer le lac Miroir, situé à plus de 2000 mètres d'altitude. Un lac qui a impressionné ces graines d'explorateurs, au micro d'Alice Milot.
Alors, on va s'asseoir. Sonny, tu peux t'asseoir. Eva ?
Moi, je suis déjà partie à la montagne, mais c'était pas comme maintenant, parce que là, on travaillait sur les canoës, on a fait du raft. Pour moi, c'était une grande aventure. Je crois que pour les autres aussi. Et pour moi, ce que ça va changer, en fait, ça va tout changer. Parce que c'était tellement... C'est extraordinaire, c'était... Dès qu'on est arrivé au lac Miroir, on a commencé à monter, tout le monde était fatigué. Heureusement, personne n'a abandonné. On montait... Et après, dès qu'on était arrivé, tout le monde était bouche bée, on était éblouis. On l'appelle le lac miroir. Il est tellement beau qu'on peut vraiment se refléter dedans.
Donc cette année, comme tous les ans, à chaque rentrée depuis 14 ans maintenant, j'aime proposer à mes élèves sur le tableau, cette année, qu'est-ce que tu souhaiterais vivre ? Et sur cette question, il a émergé un grand désir, en lien avec la classe transplantée, de partir en montagne, plutôt en hiver, pour vivre... comme un raid nordique. Et puis on s'est rendu compte que le conseiller pédagogique ne nous attribuait pas l'hiver, mais plutôt fin du printemps, début d'été. Donc lorsque j'ai annoncé ça à mes élèves, ils étaient un peu déçus. Et puis il y en a une, pimpante, elle a un petit écureuil qui a commencé à dire « Mais c'est pas grave, on ira dans les lacs d'altitude et puis on pourra aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Et cette question a fédéré les 21 élèves. Et puis on est rentré dans un projet qui nous a dépassé, je dois dire, dans le bon sens, hein, qui était au-delà de nous-mêmes. Ce projet est devenu non une randonnée, non une classe transplantée, mais une expédition avec deux missions scientifiques qui répondaient aux deux questions que se posaient les enfants. Quels sont les poissons du lac d'altitude, le lac Miroir, et quelles sont les profondeurs de ce lac?
En fait, il y avait trois pôles. Il y avait le pôle drone, le pôle canoë et le pôle plongée. Moi, j'étais sur le pôle plongée qui consistait à plonger avec deux propulseurs équipés chacun d'une caméra étanche. Elle nous a servi à filmer la faune piscicole pour en faire un inventaire. Et les plongeurs étaient équipés d'un masque, d'un tuba et d'une combinaison néoprène cagoulée.
Tu peux me raconter qu'est-ce que vous avez trouvé alors dans ce lac?
Il y en a qui ont vu des verrons. Moi, j'ai vu une truite. Je me suis mis plus à respecter la nature, à regarder des documentaires. Avant, avec mes copains au parc, on arrachait des plantes et tout, mais maintenant je le fais plus.
Cette pagaie, le maître il nous avait ramené des vernis et de la peinture et il nous avait dit qu'on pouvait personnaliser notre pagaie. Quand moi et Louise, par exemple, on a utilisé nos pagaies, bah, moi et Louise, on a senti qu'on avait vraiment fait quelque chose de nos mains. Ça veut dire que ce qu'on a fait, il est unique. Quand on achète tout dans des grandes surfaces, au bout d'un moment, on s'ennuie. Et ben, ça m'a appris à moi et à d'autres élèves que le travail manuel et l'école, c'était pas comme une prison où on restait enfermé pour travailler, mais c'était plutôt un endroit où on apprenait pour avoir un meilleur avenir. Parce que moi, avant, surtout quand j'étais en CE2, j'aimais pas l'école parce qu'on faisait que des calculs, des choses que j'aimais pas. Et maintenant, je vois que tous mes cahiers que je remplis, ils sont remplis d'illustrations que le maître il nous a laissé faire et d'écriture libre.
Comment vous êtes devenu un enseignant trappeur ?
Lorsque j'ai été, pour ma première année, affecté au pied des grands ensembles, je ne savais pas que ça existait, des barres d'immeubles de 400 mètres de long. Et j'ai pu mesurer en quelques mois vraiment la fracture, la rupture du rapport enfant-nature. Et toute ma pédagogie, de façon intuitive, je l'ai enracinée sur cette reconnexion avec le vivant. Je crois qu'on ne peut pas penser l'école sans un socle de nature. Alors, les détracteurs, je les entends déjà dire « Oui, mais alors est-ce qu'ils font de la conjugaison? Est-ce qu'ils font des calculs, etc. ?» Conduire une expédition comme celle-ci convoque tous les apprentissages, aussi bien du dire, de l'écrire, des exposés, de la géographie dynamique, des sciences, maîtriser la démarche expérimentale, être, on va dire, très impliqué en mathématiques, en géométrie aussi également, en histoire aussi. Et je dois dire que même le programme en mathématiques a été largement dépassé. En géographie dynamique, il a été largement dépassé. Moi, ma satisfaction, c'est que aujourd'hui, utiliser une boussole, un GPS, lire une carte, maîtriser les échelles, ils le savent non pas parce que le programme le dit, ils le savent parce qu'ils en ont eu besoin pour se rendre avec moi au lac Miroir à 2215 mètres d'altitude. Et donc, c'est très important aussi que l'école réfléchisse sur la concrétude, la cohérence de ces apprentissages. Il suffit d'aller dans un jardin public, un parc, une mare. Il s'agit finalement d'apporter un vivarium, un aquarium dans son école et de découvrir que la vie participe elle-même de l'école. C'est-à-dire que la vie transmet énormément de choses.
Le E de école devrait devenir un très grand E majuscule, comme le E de extraordinaire, parce que gravir une montagne, voir un lac qu'on n'a jamais cartographié, faire une classe transplantée, et en plus tout ça à l'école, c'est extraordinaire et... On fait ça pas pour se la péter, on fait ça pour nous aussi un peu, on fait ça pour le futur.
7 milliards de voisins, c'est maintenant!
Isabella Delacquila, je vous ai vu sourire pendant ce reportage. Qu'est-ce que ça vous inspire?
C'était magnifique et ça répond à ce que Leonardo da Vinci a toujours dit, déclaré que la première qualité du créatif, c'est la curiosité. Ce n'est que ça.
Et on voit que c'est simple de réveiller cette
curiosité. C'est très simple. Nous avons présenté beaucoup d'exercices pour réveiller la curiosité. Et c'est se poser vraiment des questions et trouver des réponses.
Et donner aussi aux enfants le droit à l'erreur.
Mais oui. C'est de l'erreur qu'on apprend. normalement.
Hubert Jaoui.
Et c'est là qu'on rencontre le principal obstacle à la créativité, c'est la société dans laquelle nous vivons et qui est basée sur des interdictions. Sans arrêt, on n'a pas le droit. Et le premier choc que j'ai eu avec une enseignante caricaturale et très appréciée de tous les parents, c'était quand j'ai été chercher ma fille Agnès à la sortie de l'école, premier jour de l'école maternelle, et je la trouve en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? La maîtresse m'a mis zéro. Ah bon? Pourquoi? Elle nous a dit de dessiner, sans modèle, un lapin. Et j'ai fait ce lapin, elle me montre un magnifique lapin bleu, et la maîtresse lui dit, lapin bleu, ça n'existe pas. Agnès, zéro. Et bon, j'ai expliqué qu'il faut respecter la maîtresse, mais qu'elle a ses limites aussi. Plusieurs années après, mon fils a eu la chance d'être dans une école où la maîtresse était très libérale, elle était formidable, quand elle ne savait pas. Et elle demandait à ses élèves de trouver l'information et de la lui rapporter. Elle était formidable, elle est devenue même une amie de la famille. J'ai revu quelques années après, elle a été obligée de se normaliser sous la pression des parents, qui n'aimaient pas qu'elle sorte du cadre.
Qu'elle sorte des rails. Mathieu Cassotti, la créativité existe chez tous les enfants?
Ah, la créativité, elle existe aussi chez tous les adultes, elle existe chez tout le monde. La question, c'est...
Et les retraités en particulier.
Et les retraités en particulier.
Qui ont le temps aussi.
La vraie question, c'est comment la redécouvrir et comment la mettre en lumière. Je ne dis pas la libérer, parce que ça donne l'impression qu'elle est bloquée et qu'il suffit simplement de retirer le levier. C'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, la créativité, elle a tendance à être bloquée par un certain nombre de freins. Alors, on a parlé des freins sociétaux. Mmh. C'est vrai que la pression sociale, c'est vrai que les normes sociales, c'est vrai que le cadre de référence peut être un frein, mais elle est aussi bloquée par des aspects très cognitifs. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de résoudre un problème, n'importe quel problème, la plupart du temps, on a tendance à utiliser des stratégies qui nous viennent très facilement à l'esprit. Donc ce qu'on fait avec les enfants, on utilise une tâche toute bête en fait. On leur propose de prendre un œuf de poule, de le lâcher d'une hauteur de 10 mètres et de trouver le plus de solutions possible pour que cet œuf de poule ne se casse pas. Et donc c'est une tâche typique de créativité puisqu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a énormément de solutions possibles et le but du jeu c'est d'essayer de trouver des solutions que le petit camarade ne va pas trouver. Et une des difficultés qu'on a chez des enfants de 10 ans, mais qu'on va retrouver aussi chez des ingénieurs à l'université ou qu'on va vraiment retrouver chez des entrepreneurs, donc vraiment chez des adultes, c'est qu'on va avoir tout un tas de solutions qui viennent très rapidement à l'esprit. Par exemple, on va penser à protéger l'œuf. On va penser à amortir la chute de l'œuf. Donc là, on va avoir des matelas, des piscines, tout ce genre d'exemples qui vont nous venir très facilement à l'esprit. On va aussi penser à ralentir la chute de l'œuf en utilisant par exemple un parachute. Toutes ces solutions-là, elles sont efficaces, elles pourraient être efficaces, mais en fait, on pense tous à ces solutions au même moment. Donc, en termes de créativité, d'originalité, on est plutôt faible. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que des enfants de 10 ans vont être aussi bons d'un point de vue créatif, ou aussi mauvais, ça dépend de la façon dont on le voit, que des ingénieurs qui ont passé 5 ans dans des écoles prestigieuses. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'essayer de faire comprendre aux enfants, ou en tout cas d'essayer de travailler avec les enfants pour qu'ils soient capables d'identifier justement ces solutions qui leur viennent très facilement à l'esprit et qui ne sont pas forcément originales pour pouvoir les aider à explorer des choses un petit peu différentes.
Et on a parlé... dans l'exemple de l'œuf, par exemple.
Alors, pour l'exemple de l'œuf, par exemple, on peut modifier les propriétés naturelles de l'œuf. On peut le cuire, on peut le congeler, on peut changer l'environnement. Mais on parlait tout à l'heure de la connaissance. Il y a toujours un rapport très étroit entre la créativité et la connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance. On va être piégé par les connaissances qui viennent très facilement à l'esprit, mais l'enjeu, c'est d'aller chercher des connaissances qui sont très éloignées. Par exemple, l'œuf a des propriétés naturelles de résistance extrêmement fortes, mais qui sont ignorées. Vous pouvez, sur un tapis d'œuf, mettre 2 ou 3 voitures sans aucun souci, l'œuf ne cassera pas. Pourquoi ? Parce que si vous le prenez sur son ovale, vous pouvez essayer chez vous d'essayer de casser l'œuf avec vos 2 doigts sur l'ovale, vous n'y arriverez jamais. Cette connaissance, vous ne l'avez pas, et bien la créativité, normalement, ça doit vous pousser à aller chercher des connaissances extérieures. Et à partir du moment où vous avez ces nouvelles connaissances, vous allez pouvoir générer des choses un petit peu nouvelles.
Comment, quand on est parent, ne pas brider l'enthousiasme de ses enfants? André Stern, dans votre livre, vous racontez que vos enfants vous demandent souvent les chiffres des plaques d'immatriculation, les lettres, et que systématiquement, vous leur répondez, voilà, même si les questions reviennent souvent, et vous les accompagnez en fait dans cet émerveillement permanent.
Oui, qui est effectivement l'état de tous les enfants. Hein. J'ai pas d'enfants particuliers. Ils sont comme tous les enfants. Ils sont curieux. Ils boivent le monde. Et sans craindre, c'est peut-être ça leur différence, sans craindre ce qui conduit finalement à la mort de la créativité qui est notre thématique, ce qui est la mort de l'enthousiasme qui est la même chose. Hein. C'est la crainte qu'on peut avoir au fur et à mesure des expériences qu'on va faire, même depuis très tôt en tant qu'enfant, c'est d'être interrogé d'une certaine manière qui va nous amener à avoir peur de devoir répondre « je ne sais pas ». Et ce « je ne sais pas » pour lequel les enfants baissent la voix, hein, on n'ose pas dire, c'est ce que tu ne sais pas, tu ne connais pas la bonne réponse, donc tu es une mauvaise personne et personne ne veut être une mauvaise personne. Ce « je ne sais pas » à la base, c'est lui qui nous ouvre les portes, c'est lui qui nous rend créatifs, c'est lui qui, s'il est porté par notre enthousiasme, nous permet de trouver les solutions et de réinventer le monde et de découvrir le monde. Ce « je ne sais pas » qui était la clé des choses se transforme en un ennemi qu'on n'ose plus prononcer, et donc on reste juste dans le cadre de ce que l'on sait, et c'est effectivement pas dans le cadre de ce que l'on sait que l'on va trouver des solutions ou des réponses. Mais en réalité, tout ça, ce que font les enfants, en tant que parents, chercher à le quantifier, à le qualifier ou à le classer, c'est toujours périlleux parce que ça nous fait toujours partir de nous, parents, alors qu'il serait beaucoup plus simple de partir de eux, enfants, et au lieu de toujours nous demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux, voir ce qu'eux peuvent faire pour nous, par exemple, nous amène à changer d'attitude. Et ça, c'est très facile, parce qu'on en a tous un peu assez de qu'on nous dise qu'il faut changer, qu'il faut évoluer, qu'il faut nous améliorer, que comme on est, c'est pas terrible. Personne veut entendre ça, on en a assez. Depuis le début, on nous dit, hein, ça commence par la bonne question qu'on pose aux parents. Il fait ses nuits, qui nous conduit à rencontrer notre enfant en lui disant « je te préférerais, je t'aimerais plus si tu dormais davantage hein. ». Ce qui veut dire que tel que tu es, t'es pas terrible. On en a marre de ça, on nous l'a dit tout le temps, on nous le dit tout le temps, on n'arrête pas de nous le dire, on n'arrête pas de nous inciter à devenir. Puis là, on se rend compte qu'en réalité, c'est intérieur et qu'à partir du moment où on a parlé de ça, à partir du moment où on a cerné que ce sont des énergies qui nous portent depuis toujours, hein, c'est l'enthousiasme qui est mon sujet est une énergie qui nous porte depuis toujours, elle est native, bah, tout ça c'est en nous et que finalement c'est assez facile, en tout cas de ne pas l'enterrer chez nos enfants, c'est pas en faisant des choses, c'est peut-être juste en faisant moins et c'est peut-être...
En les laissant aussi poser des questions.
C'est en changeant d'attitude, c'est en changeant d'attitude parce que finalement ce « je t'aimerais plus si tu changeais » ne correspond pas du tout à notre nostalgie à tous, à tous les points de vue, notre nostalgie à tous, ça serait plutôt qu'on nous dise « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et à partir du moment où on nous dit ça, ça change le monde. Parce que ça, c'est la confiance inconditionnelle. On connaît bien l'amour inconditionnel, « je t'aime », qu'on dit souvent à nos enfants. La confiance inconditionnelle, on la connaît moins. Et pourtant, il n'y a pas d'amour véritablement inconditionnel sans confiance inconditionnelle. Et cette confiance inconditionnelle, c'est ce petit ajout à la phrase « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et alors là, c'est vrai qu'une fois que ce couvercle de « je préférerais que tu sois autrement que tu n'es », à partir du moment où ce couvercle n'est pas déposé, c'est vrai que nos enfants deviennent des choses étonnantes, comme tous les enfants, parce qu'ils sont portés par leur enthousiasme qui fait ensuite partie de leur créativité. Et ce n'est pas un concept, ce n'est pas une chose qu'ils développent, ce n'est pas une chose à laquelle on les éduque, c'est juste une chose qu'on ne les empêche pas de vivre.
Alexandre Planck, quelles leçons vous tirez de votre expérience à Douarnenez ? Est-ce que vos élèves se sentaient en confiance ? Est-ce qu'ils étaient impliqués aussi ?
Ils ont été entièrement impliqués dès le départ, parce que je les ai volontairement impliqués entièrement dans le départ en leur disant que le résultat dépendrait de toute façon de ce qu'ils feraient. Qu'on fabrique une émission réussie ou qu'on fabrique une émission ratée, pour le meilleur et pour le pire, ça serait leur émission et qu'il fallait qu'ils prennent ça en compte. Donc la responsabilisation était très importante. Et je suis assez d'accord avec tout ce qui est dit ici, c'est-à-dire que ce principe de responsabilisation, enfin cette idée de Bertolt Brecht disait de travailler avec le cerveau des autres. C'est-à-dire que si on ne se met pas à travailler à un moment avec le cerveau des enfants ou avec le cerveau des ados, moi j'ai vu beaucoup, j'étais dans des classes de théâtre quand j'étais jeune, au lycée ou au collège, et j'avais sans arrêt la sensation qu'un adulte venait plaquer ses propres désirs sur mon énergie à moi. C'est-à-dire me spolier entièrement de ce que moi, du haut de mes 12 ans, pouvais raconter du monde. Même si ça n'avait aucun intérêt. Mais en tout cas, j'avais l'impression toujours de porter la parole d'un autre qui m'avait dit « il faut faire comme ça, il faut danser comme ça, il faut parler comme ça ». C'est ce que je n'ai pas du tout voulu reproduire. Et je pense que ce que vous disiez tout à l'heure sur la créativité d'un enfant et la créativité d'un enfant, c'est pas la créativité d'un adulte qui vient plaquer sa créativité à lui, son modèle de pensée, ses schémas de réflexion sur un enfant. Je pense que ça, c'est décisif. Et je pense que c'est là où l'école a quelque chose à jouer, parce que l'école construit quand même des modèles de ce que doit être la créativité. Aujourd'hui, quand on parle de créativité, c'est monter une start-up. Hein. Je suis désolé, il y a aussi une politique de qu'est-ce que la créativité, qu'est-ce que doit être la créativité pour un jeune, pour un ado, pour un étudiant. Il faut être capable de déjouer ça en permanence, parce que on a toujours l'impression qu'il y a des modèles selon les époques de ce qu'il faut être capable de créer. Et en fait, il faut partir des enfants et des adolescents.
C'est donc un changement de paradigme. Comment, en tant
parents peut-on aider ses enfants à libérer leur créativité, à découvrir leurs propres talents? On en parle tout de suite sur RFI, mais d'abord, Bananaphone, et c'est signé Rafi.
Ring, 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 Bananaphone. Ring, 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 Bananaphone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing. Ring, 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 Bananaphone. Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, Bananaphone. It grows in bunches, I've got my hunches. It's the best, beats the rest. Cellular, modular, interactive, modular. Ring, 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 Bananaphone. Ping pong, ping pong, ping pong, ping, Bananaphone. It's no baloney, it ain't a phony, my cellular bananular phone. Don't need quarters, don't need dimes to call a friend of mine. Don't need computer or TV to have a real good time. I'll call for pizza, I'll call my cat, I'll call the White House, have a chat, I'll place a call around the world. Operator, get me Beijing, jing, jing, jing.
Créativité, imagination, enthousiasme, tous ces mots nous font vibrer aujourd'hui dans 7 milliards de voisins. Sujet éducation, comme chaque vendredi, éducation au sens large. Aujourd'hui, comment peut-on susciter l'imaginaire des enfants, leur donner envie de jouer, de découvrir, de tâtonner, d'expérimenter, sans avoir peur de l'échec? Avec nous pour en parler, Isabella Dell'Aquila et Hubert Jaoui, qui publient « Vos enfants sont créatifs » aux éditions Erol. André Stern, auteur conférencier, qui publie quant à lui aux éditions Auré, tous enthousiastes, retrouvez votre énergie d'enfant. Alexandre Planck, réalisateur et producteur de formats radio de fiction sur France Culture. Et Mathieu Cassotti, professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes et chercheur au laboratoire de psychologie du développement et d'éducation de l'enfant. Alors, développer l'imaginaire peut aussi nous aider à travailler notre mémoire. C'est en tout cas ce que pense le champion de France de la mémoire, car oui, il existe des compétitions de mémorisation. Sébastien Martinez.
Bonjour. Très souvent, des personnes qui me disent « Mais comment faire pour avoir une bonne mémoire de la culture générale ?» En France, on est friand de ça, de culture générale. Et par exemple, si vous lancez le défi de mémoriser les capitales et les pays du monde, prenons l'Albanie et Tirana. Si on sollicite notre imagination, Tirana, moi ça me fait penser à quoi Tirana? Phonétiquement, ça me fait penser à oui, un piranha. Donc je vais vous laisser imaginer un piranha dans votre esprit. Vous avez ce piranha, et maintenant on va le connecter avec la suite, c'est-à-dire l'Albanie. Alors l'Albanie, phonétiquement, il peut y avoir le terme bannir, vous voyez, se faire bannir. Donc on a ce petit piranha qui fait partie d'un clan et il se fait bannir de ce clan. Et là, vous représentez dans votre esprit, vous voyez, ce piranha qui se fait bannir. Et laissez-vous guider par donc, cette imagination et associer un maximum de sens, du visuel, peut-être il y a une sensation tactile, du chaud, du froid. Imaginez des sons, plus cette information prendra vie dans votre esprit, dans votre imaginaire, et plus elle va s'ancrer dans votre mémoire.
Sébastien Martinez, champion de la mémoire, qui propose des formations à la mémorisation avec plusieurs méthodes, notamment, on l'a compris, des associations d'idées. En fait, on peut se raconter des histoires pour mieux se souvenir, connecter ce qu'on apprend à quelque chose qui nous parle. Et il milite pour qu'au sein des écoles, on apprenne en faisant appel à ces méthodes et pas simplement en apprenant par cœur. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Mathieu Cassotti.
Ah, ça m'inspire quelque chose un tout petit peu plus éloigné de la créativité, mais c'est vrai que la capacité à apprendre des informations, s'il n'y a pas cet enthousiasme véritablement de l'apprendre, et ce n'est pas très enthousiasmant d'apprendre quelque chose par cœur qui n'est pas forcément intéressant, ça ne peut pas fonctionner. Et tout l'enjeu de l'école, normalement, ce serait justement de donner des petits trucs, des connaissances sur le fonctionnement de notre mémoire, de façon à ce qu'on puisse apprendre mieux, en s'amusant aussi. Bien évidemment que de créer des images mentales, d'associer des éléments les uns par rapport aux autres, de raconter une histoire, ça permet de mieux mémoriser. Mais si vous prenez un enfant de 4 ans et que vous lui donnez n'importe quoi à essayer d'apprendre des choses, il va vous regarder et il va pas comprendre qu'il doit faire quelque chose pour mémoriser. Et ce « doit faire quelque chose », ça peut être très rébarbatif à l'université. On récite, on peut écrire ses notes, etc. Chez les enfants, c'est compliqué à faire. Donc le jeu peut servir de ça. À partir du moment où il va être motivé, enrôlé dans une action, comme disait Brunner, il va pouvoir apprendre beaucoup plus que si vous lui répétez, ça ne fonctionnera pas. Et donc, bien évidemment, le double codage ou triple codage d'une information peut passer par le jeu et l'imaginaire, et l'imagination pour se raconter des histoires. Et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir mieux mémoriser.
Et vous proposez, Isabella Delacquila, Hubert Jaoui, plusieurs activités pour libérer la créativité. Oui. Alors par exemple des devinettes, aussi de l'imitation. On peut suggérer à l'enfant de se mettre dans la peau d'un personnage. Ouais. Et puis aussi, celle-là, je l'ai bien aimée, de fermer les yeux et d'écouter les sons qu'il entend pour ensuite les retranscrire, voir ce que ça lui inspire.
Oui, les traduire en images, en faire des dessins et surtout dire ce qu'il ressent. En parlant de ses propres émotions, l'enfant commence à se connaître mieux lui-même. Et le parent a découvert certains aspects qui peut-être il n'avait pas remarqué. Mais il y a un simple exercice qui s'appelle le tapis volant pour développer surtout l'écoute active. Et on invite notre enfant à imaginer un tapis et on s'allonge dessous. On lui demande de fermer les yeux et on imagine de faire ensemble un voyage extraordinaire. Et on commence à parler et on prend le relais. On demande de commencer à décrire ce qu'il voit.
Donc là, j'imagine qu'il
continue, et puis le voyage continue. C'est tout simple. Il faut seulement s'allonger par terre. Imaginez d'être même allongé sur un tapis, même s'il n'y a pas de tapis. Mais là, on apprend beaucoup de choses. Et surtout, on développe vraiment l'écoute. Pour moi, l'écoute est très importante dans l'éducation. Savoir écouter, c'est très difficile. On dirait que, bon, on prête à l'attention, oui, on a compris ce que tu as dit, mais non. Se mettre dans la peau des autres, c'est comme il disait, c'est très
Alexandre
important.
Alexandre Planck. Et effectivement, vous parlez aussi de brainstorming dans le livre. Vous dites, on pourrait aussi proposer aux enfants de faire des brainstorming sur, par exemple, comment organiser leur prochain anniversaire ou comment ranger leur chambre et apprendre, en fait, à écouter les idées de chacun.
Oui.
Oui, et vous en voyez brainstorming qui est la mère de toutes les techniques, hein. Inventé par un grand publicitaire, généreux en plus, puisque tout ce que lui a rapporté son livre, il a mis dans la Foundation for Creative Education, qui est la mecque de la créativité, il faut y aller au moins une fois dans sa vie, c'est à Buffalo. Et un aspect qui a été posé depuis le début, c'est le côté dialectique de la créativité, qui rend difficile de l'expliquer, parce qu'on a tendance à aller dans le sens simplement de la libération, de la fantaisie, de la joie, etc. Alors que c'est dialectique par définition. Il y a des règles et de la liberté. Il y a du plaisir, il y a de l'effort et de la sueur. C'est complètement dialectique. Et la dialectique ne fait pas partie de la culture française.
Et alors,
c'est noir ou blanc, c'est bien ou mal, alors que ça devrait être le « et ». Et nous avons une liste de mots tabous que nous enseignons dans le séminaire, qu'on emploie quotidiennement. Et cette liste-là pour nous rappeler que ces mots sont idéicides, quoi. Il faut arriver à s'en passer complètement. Et un des outils que nous employons, c'est la clochette anticritique. Quand on a tout un groupe créatif, il y a une ou plusieurs clochettes, et quand quelqu'un prononce « impossible », »,« on a déjà essayé », etc., il y a 20 phrases et d'autres expressions qui tendent à étouffer la créativité, et il faut arriver à s'en nettoyer complètement.
Donc on fait sonner cette cloche.
Oui, absolument.
Pour éviter que ça freine aussi les idées.
Les enfants eux-mêmes le font, ils s'amusent énormément à faire sonner cette clochette. Et la première fois, ça peut sonner 2-3 fois, après 4-5 fois, ça ne sonne presque jamais. Donc, ils apprennent très bien. Ils savent très bien
Et vous évoquez aussi dans le livre l'écriture d'un scénario, on rejoint un petit peu le projet d'Alexandre Planck, de plancher aussi sur une production finalement. Alors, comment faire?
Parce que il faut dire que être créatif, ça ne veut pas simplement dire penser de façon créative. Ça veut dire surtout agir, construire, faire, produire. Ça, c'est très important.
Avec un objectif.
Oui, avec des objectifs. Donc, pour construire un scénario, on s'amuse énormément. On leur donne des éléments et on leur demande de faire croiser ces éléments par hasard. Et à partir de ça, qu'est-ce que ça peut donner? Et on va voir que l'imagination se déclenche énormément et qu'ils improvisent des histoires fantastiques, magnifiques. C'est très beau de les voir en action.
Et quand on parle de créativité, André Stern, on parle aussi de droit à l'ennui, finalement, loin des écrans aussi, qu'on accuse de tous les maux. Est-ce que vous les laissez s'ennuyer, vos enfants?
Mais je ne suis pas sûr que l'ennui soit véritablement un état de l'enfance. On s'ennuie quand on a appris à renoncer à ce qui nous portait et qu'on a pris l'habitude d'obéir à un code, à des demandes, à des attentes. Et puis quand tout d'un coup il n'y a pas d'attente, on se retrouve à plus trop savoir quoi faire, pensant que ce vers quoi nous porterait notre cœur, ou ce que moi j'appelle l'enthousiasme, n'est pas pertinent. Et donc c'est plutôt un état méditatif, mais l'état méditatif de l'enfant est très impressionnant. Ça fait encore une fois partie des choses qu'on voudrait voir chez nos adultes. Il nous faut des années de méditation pour être capable de nous concentrer 2 minutes avec la même intensité que celle que nous montre un enfant dans son jeu, dans son enthousiasme, qui se concentre pendant 2 heures. Et donc c'est plutôt un état méditatif dans lequel, effectivement, dans ce silence-là, peuvent émerger les choses qui peuvent résoudre toutes sortes de problèmes, parce que justement, on n'est pas dans l'étouffement d'avoir peur de ne pas apporter la bonne réponse au bon moment, qui fait que finalement, on craint de devenir une mauvaise personne. Et puis, et vraiment, je tiens à le répéter encore, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce livre, c'est de faire traverser le miroir, de nous inviter à venir du côté du miroir de cette simplicité, de cette facilité, de cette confiance, de cet enthousiasme, et de constater qu'une fois qu'on y est, tout devient beaucoup plus simple. C'est juste une invitation, c'est pas un travail, c'est pas une chose qui, encore une fois, nous remet en question, puisque nos enfants deviennent comme nous les voyons, ce qui est soit une bonne, soit une mauvaise nouvelle, hein. Et si on les voit... d'une certaine manière, ça deviendra leur manière de se présenter eux-mêmes. Comme, vous connaissez la phrase « je suis nul en maths »
Elle revient souvent.
Elle revient souvent, on l'entend souvent. Si vous l'écoutez, si vous l'entendez bien, elle va dire « je suis nul en maths », alors que je travaille donc avec pas mal de scientifiques, dont des neurobiologistes, qui vont vous dire « la vraie phrase, elle n'est pas comme ça, hein. Les maths ne m'intéressent pas. » Parce que si elles m'intéressaient, je serais excellent.
Bah, c'est bien, ça nous permet de changer de perspective. Mathieu Cassotti, Alexandre Planck, je vous laisse le mot de la fin. En quoi cette créativité va s'avérer importante pour ces enfants qui sont des futurs adultes?
La créativité, elle est importante dès lors qu'on doit résoudre un problème nouveau. C'est-à-dire que si votre problème, c'est d'aller à l'école et de prendre le bus, bon, bah, la plupart du temps, effectivement, vous n'avez pas besoin forcément d'être créatif. Jour de grève... Là, par contre, l'environnement vous contraint à trouver des solutions nouvelles et trouver des solutions un petit peu plus originales. Donc, bien sûr que la créativité, elle va être importante à chaque fois qu'on va être confronté à un problème où les solutions classiques ne peuvent pas être utilisées.
Et donc, ça peut nous servir dans la vie de tous les jours.
Moi, je vais vous le raconter un petit peu différemment. Moi, j'ai l'impression que dans la vie de chacun, il y a extrêmement peu de gens qui peuvent vous sauver la vie. Il y a extrêmement peu de gens qui font de vous ce que vous êtes. Et généralement, ce sont des gens qui ont ouvert des portes, qui ont ouvert les bonnes portes et qui vous ont permis d'explorer. Alors ensuite, il y a des ramifications, c'est des dizaines de territoires. Mais ces gens-là sont toujours des gens qui ont réussi à toucher un désir de création chez vous et qui font que votre vie est sauvée, ou votre vie va en tout cas partir vers des choses que vous n'imaginez pas.
Beaucoup de choses donc se jouent derrière ce mot créativité. Merci à vous Alexandre Planck. On va mettre sur notre page internet le lien de votre docu-fiction. Demain s'ouvre au pied de biche. Merci également à vous Isabelle Adelakila, Hubert Jaoui, André Stern, Mathieu Cassotti. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Romain Dubrac à la réalisation, Cécile Lavolo, Baptiste Madinier, Delphine de Dianous. Et merci à vous bien sûr les voisins et les voisines. Lundi, 7 milliards de voisins, vous retrouverez Emmanuel Bastien. Comment prendre la parole en public? Quels sont les secrets des grands orateurs? Comment faire preuve d'éloquence? Et moi je vous dis à bientôt, bel été.